I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
À tous nos compatriotes qui se sont tournés vers l'abstention ou le vote extrême, je veux les convaincre que notre projet répond bien plus solidement que celui de l'extrême droite à leur peur et aux défis du temps. Comptez sur moi.
Chacune de vos voix compte autant que celle de ceux qui nous gouvernent. Alors usez de votre droit de vote pour vous défendre. Parce que si le peuple vote, le peuple gagne.
Bonjour, vous écoutez Minute Papillon avec notre rendez-vous hebdo Minute Présidentielle, des entretiens sur la campagne pour l'Élysée. Dans cet épisode, on va parler de jeûne et d'abstention, c'est-à-dire l'absence de vote d'une électrice. L'abstention, c'est de loin le candidat favori des jeunes aux élections. Au premier tour de la présidentielle de 2022, 4 électeurs de moins de 35 ans sur 10 n'ont pas voté. Au régional de 2021, l'abstention avait crevé le plafond chez les 18-24 ans. Près de 9 électeurs sur 10 s'étaient abstenus. Pourquoi le taux d'abstention chez les jeunes augmente-t-il ? Est-ce que, comme on peut l'entendre chez les plus âgés, les jeunes sont une génération je m'en foutiste ? Est-ce que l'abstention est due à des problèmes techniques ? Abstention égale dépolitisation ? Que révèlent les nouvelles formes d'engagement ? Beaucoup de questions. Et pour y répondre, Anne Muxel, directrice de recherche en sociologie et en sciences politiques CNRS au CVPOF, Sciences Po, autrice notamment de « Politiquement jeune » aux éditions de l'Aube et co-autrice de « Les Français sur le fil de l'engagement » là aussi aux éditions de l'Aube. Anne Muxel, bonjour. Depuis quand constate-t-on une surabstention chez les jeunes ?
La surabstention des jeunes a toujours existé. Depuis que les jeunes ont eu le droit de vote à 18 ans en 1974 et même avant, on observait toujours un retrait de la participation électorale dans les tranches d'âge les plus jeunes. Donc cette, je dirais, abstention structurelle qui est liée à cet âge de la vie, qui est liée aussi au fait que pendant le temps de la jeunesse, on est pris par d'autres urgences, par des conditions d'insertion aussi sociales, économiques, résidentielles, qui ne sont pas toujours faciles. Et on sait que les liens entre les conditions de l'insertion et les conditions de la participation électorale sont forts. Donc ce n'est pas dans ce temps de la vie, on va dire, que l'on participe le plus à l'élection. Et les années de jeunesse représentent un temps que j'ai appelé dans mes travaux de moratoire politique, qui caractérise effectivement la socialisation politique des jeunes et l'entrée dans leur vie de citoyens actifs. Donc ce n'est pas nouveau. Simplement, ce que l'on observe aujourd'hui, c'est que cette abstention importante l'est encore plus que par le passé. Et si on en juge en tout cas la dernière élection, il y a vraiment un décrochage de la participation électorale qui laisse penser à une fracture civique entre les générations. Et c'est ça qui, évidemment, interroge et retient l'attention, surtout dans le cadre d'un scrutin tel que celui-ci. L'élection présidentielle est l'élection qui mobilise le plus les citoyens et, a fortiori, les jeunes.
L'abstention serait, de la part de personnes plus âgées, révélateur d'indifférence, d'un manque de civisme des jeunes. Est-ce que vous souscrivez à cette critique ?
Je ne souscris pas du tout à ce commentaire et à ces analyses. Cela fait maintenant des années que dans mes travaux, je montre que les jeunes ne sont ni dépolitisés, ni détournés de tout ce qui peut concerner la vie collective, la vie en société, et qu'ils sont même souvent très prompte à se mobiliser dans d'autres cadres, en dehors effectivement de la participation électorale, mais sur des scènes de mobilisation collective ou au travers d'autres outils démocratiques. En revanche, ce qui a changé, c'est la place du vote. Le vote est maintenant en concurrence avec d'autres formes de participation politique, des formes dites non conventionnelles de participation politique. Et ce que l'on observe, et ce qui caractérise vraiment, je dirais, le comportement politique des jeunes aujourd'hui, c'est un usage d'abord alterné du vote et du non-vote, mais aussi un usage de plusieurs formes de participation politique à l'intérieur donc d'une palette d'usages démocratiques qui s'est élargie et diversifiée.
Pour quelles raisons les jeunes ne votent-ils plus ?
Alors, dans ce cadre d'évolution du comportement électoral qui touche les jeunes qui rentrent dans leur rôle de citoyens actifs et citoyens électeurs dans un moment de plus grande défiance aussi envers la classe politique, dans cette conjoncture où aussi le vote est moins considéré comme un devoir que comme un droit. Dans les jeunes générations, c'est vrai que ce vote par devoir n'existe plus et que il faut des enjeux saillants pour que les jeunes considèrent que ils peuvent s'exprimer en utilisant leur droit de vote. Mais cela étant dit, cela n'enlève rien au fait qu'il existe aussi des conditions et des raisons très pratiques qui peuvent freiner, on va dire, ce passage à l'acte électoral chez les jeunes.
Quelle est la part de l'abstention liée à la malinscription sur les listes électorales, c'est-à-dire une inscription ailleurs que sur le lieu de vie ou d'études, dans le foyer familial d'origine où les jeunes n'habitent plus ?
La malinscription est un phénomène qui a une incidence forte sur l'abstention. Elle concerne entre au moins 4 jeunes sur 10, surtout à l'approche de la trentaine. Les 25-34 ans sont particulièrement concernés par ce type d'abstention, car étant restés inscrits pour beaucoup d'entre eux au domicile de leurs parents, ils évoluent ensuite quant à leurs projets en matière d'études, en matière professionnelle, et sont amenés à connaître des mobilités géographiques tout en ne se réinscrivant pas sur les listes électorales. Ce qui fait que cette malinscription peut avoir un impact sur leur participation très concrètement.
Vous parlez du vote comme forme traditionnelle de participation politique qui s'effondre quand se développent des nouvelles ou plus ou moins nouvelles formes d'engagement à la vie de la cité comme la signature de pétitions, le boycott, les mobilisations sur Internet, sur les réseaux sociaux. Est-ce que ces formes d'engagement concernent tous les jeunes, toutes les jeunesses ?
Les jeunes qui participent à des manifestations, qui sont actifs en ligne sur les réseaux sociaux, les jeunes qui participent à des grèves, à des mobilisations quelles qu'elles soient, bon, ça représente à peu près 3 jeunes sur 10, c'est déjà pas mal, mais ce n'est pas autant que s'agissant de la mobilisation dans les urnes. Ce sont quand même des millions de jeunes qui sont allés voter. Ça reste quand même la forme d'expression de participation politique la plus répandue. Et ce que l'on observe par ailleurs, c'est qu'il n'y a pas d'exclusion finalement entre ces deux registres de l'engagement, mais plutôt convergence. C'est-à-dire que ce sont à la fois ceux qui manifestent le plus, ceux qui utilisent le plus tous les registres à leur disposition d'expression et de participation politique, qui aussi vont le plus aller voter. En revanche, ce sont dans les segments de la jeunesse qui sont les moins diplômés, qui sont souvent dans des conditions de vulnérabilité quant à leur capacité d'intégrer le marché du travail, des jeunes qui connaissent des difficultés économiques. Alors ces jeunes sont plutôt en retrait de toute forme de participation.
Est-ce que le changement des institutions résoudrait la crise du vote chez les jeunes ?
C'est une question, je dirais, qui déborde la seule question générationnelle, parce que finalement, ça ne concerne pas simplement les jeunes. Le premier tour de l'élection présidentielle de dimanche dernier montre bien que l'on est arrivé au bout d'un cycle de profonde désorganisation du système politique, avec une part très importante prise maintenant par les extrêmes, où s'organise d'une certaine façon toute la protestation, tout le malaise finalement démocratique ressentie soit à gauche, soit à droite par les citoyens, et avec au milieu un espace central qui a mis à bas, d'une certaine façon, les forces classiques de gouvernement. Donc on voit bien que ces résultats montrent là une sorte de point d'aboutissement de cette crise de la représentation politique qui a été entraînée par cette défiance envers les partis de gouvernement, envers les responsables politiques, envers la classe politique qui s'est fait connaître maintenant depuis de nombreuses années. Donc le niveau de défiance est à son point extrême. La désorganisation du système politique, d'une certaine façon, est maintenant établie. 2017 en avait été l'avant-scène avec la disruption politique, la disruption électorale qu'avait représenté l'élection d'Emmanuel Macron. Mais 5 ans plus tard, vraiment, là, on est dans une sorte de point d'aboutissement de cette crise politique profonde et dont les citoyens révèlent toutes les implications en ne votant pas. C'est-à-dire que l'abstention est forte. Certes, elle n'est pas aussi forte qu'en 2002, mais quand même, elle est forte. Mais c'est surtout que dans les jeunes générations, et ça, c'est beaucoup plus préoccupant, eh bien, la désaffection des urnes prend des proportions beaucoup plus importantes que les autres fois. Entre 4 et 5 jeunes de 30 ans qui ne va pas voter un premier tour électoral présidentiel dans notre pays, c'est vrai que ça mérite quand même d'être pris en considération, et surtout pris en considération par la classe politique, quelle qu'en soit l'obédience. Les jeunes sont toujours plus abstentionnistes, quelles que soient les élections, à peu près 10 points au-dessus, toujours, hein, de la moyenne du taux d'abstention pour l'ensemble de la population. Mais là, on a vraiment un décrochage, et tout particulièrement parmi les trentenaires. Je crois que ça mérite quand même d'être réfléchi. C'est aussi parmi les trentenaires que l'on observe le nombre de votes pour Marine Le Pen le plus élevé. Donc tout cela montre bien qu'il y a un profond malaise ressenti, en tout cas dans cette tranche d'âge, vis-à-vis de la classe politique.
Les jeunes qui ont 20 ans en auront 30, 40, ils vont s'installer dans la vie. Que peut-on imaginer comme comportement politique pour eux dans le futur ?
On peut penser que cette citoyenneté reconfigurée sur la base d'un électeur à la fois plus défiant, plus critique, mais aussi plus informé, ne l'oublions pas, mais d'un électeur qui va faire un usage alterné du vote et de l'abstention, et aussi d'un électeur qui va être plus protestataire, n'oublions pas la part prise par les votes de protestation, on va dire, sur des forces politiques plus radicales, à l'extrême gauche comme à l'extrême droite, sans nul doute que le fait d'avoir fait ses premiers pas en politique dans ce contexte et avec cette panoplie d'attributs de la citoyenneté comme de la participation politique risque de perdurer dans le temps. C'est-à-dire que de toute évidence, le sens du devoir attaché au fait de voter s'affaiblit dans le renouvellement générationnel. Et bon nombre de travaux de sciences politiques ont montré que si l'on ne prend pas très précocement l'habitude de voter, eh bien, ça risque aussi de perdurer dans le temps. Donc je pense que le citoyen de demain, ce sera un citoyen qui votera moins.
Merci à Anne Muxel pour cet entretien. Minute Papillon avec son point d'exclamation. C'est un podcast d'actualité généraliste de 20 minutes. Vous le retrouvez sur toutes les plateformes de podcast disponibles. C'est gratuit. N'hésitez pas à vous abonner, vous retrouverez ainsi très facilement notre millier d'épisodes déjà diffusés. Oui, oui, plus d'un millier. Pour nous écrire, vous pouvez laisser des commentaires sur ces plateformes de podcast, mais aussi nous écrire à l'adresse audio@20minutes.fr. On se retrouve très vite. D'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.